Je vous donne un scoop. Ça vous tente d'être vraiment béni. Venez à 8 heures à la pratique. Des fois, il y a des trésors. Robin nous avait fait ça ce matin. C'était... Je suis là, il est en avant. Priez pour eux. C'est vraiment un ministère extraordinaire. Des fois, j'écoutais les tunes sur Héritage, puis j'étais là, puis je me disais, oh, un jour, on va pouvoir entendre ça chez nous. Ce matin, je suis arrivé à la pratique, puis oh, c'était génial. Priez pour eux. C'est vraiment un ministère précieux. Merci, Kim, pour le chant. Nathalie, où est-ce qu'elle est, Nathalie? Nathalie, j'aime ta voix. Mais ce matin, je t'écoutais, puis je me disais, j'aime sa foi. J'aime connaître sa foi, j'aime connaître la personne qui est derrière cette voix-là. Alors, priez pour les musiciens, c'est un ministère extraordinaire, et on est béni vraiment avec des très bons musiciens. Priez pour que Robert continue à nous faire de la belle musique, c'est vraiment une grâce. Merci. Merci. J'avais oublié de vous mentionner quelque chose pour le cours sur la famille. Je l'ai mentionné la semaine dernière, mais c'est important. On va poursuivre, dans le fond, après la conférence. Alors, je pense que vous avez ça dans le dépliant, dans le feuillet, les informations, mais on va avoir 4 rencontres après. Pour ceux qui veulent commencer à mettre ces principes-là en pratique dans leur foyer, dans leur maison, donc on va poursuivre après. Vous devez vous inscrire pour ça. Et il y a une condition préalable pour participer avec nous. Soit que vous allez lire le livre « Disciplines of a Godly Family », je le dis en anglais, c'est pas un anglicisme, il est juste en anglais, d'accord? Ou bien vous assistez à la conférence. Alors, si vous ne pouvez pas assister à la conférence, vous allez devoir lire le livre en anglais. Peut-être que Dieu veut que vous appreniez l'anglais, je ne sais pas. Mais c'est une condition, je vous le dis, parce qu'autrement, vous allez empêcher le groupe vraiment d'entrer un peu plus loin dans la mise en pratique de ce qu'on a vu ensemble dans la conférence. D'accord? Alors, vous pouvez en prendre en note les dates, vous inscrire, donner votre nom. Vous allez être bienvenus, on va avoir du bon temps ensemble. Autre chose pour laquelle j'ai fait une erreur tout à l'heure, La conférence d'Adama Dico de dimanche dernier n'est pas sur le site web. Vous pouvez vous la procurer en CD après le service. Ça, c'est possible de le faire. Et on verra si on a la possibilité de le mettre sur le site web. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, je crois à ton sacrifice. Je crois à ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je crois que j'ai, en ce moment, à l'instant même, accès dans le Saint-Lieu. Je crois que l'attention du Créateur du monde m'est acquise à cause de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, plus que cela encore, je crois que ta faveur, Père, m'est acquise. Tu déposes sur moi un regard favorable et tu as de bons projets pour moi, Seigneur. Père éternel, nous voulons t'adorer car tu es Dieu. Tu es le Dieu des cieux. Tu as créé toutes choses, tu règnes et tu domines, Seigneur. Tu domines les nations, tu domines les éléments, tu domines les éléments de nos vies aussi, Seigneur. Et Père, j'attends de toi une œuvre fraîche, une fraîche révélation de ta grâce dans cette Église, Seigneur. Dans nos cœurs et dans nos vies, j'attends de toi que ton esprit vienne donner vie, Seigneur, à des situations, des états d'âme, des dispositions de cœur qui sont morts. Plus que cela encore, Seigneur, j'attends de ton esprit que tu donnes vie à certains qui sont ici dimanche après dimanche et qui sont morts spirituellement, qui ne sont pas enfants de Dieu. Je demande ta grâce, Seigneur, qu'ils ne côtoient pas cette assemblée pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Oh, préserve-moi de cela, Seigneur. Comme pasteur, préserve-moi de ça. Qu'ils ne se présentent pas devant toi pour entendre de ta bouche, Jésus, retire-toi de moi. Je ne te connais pas. Je t'en supplie, Christ. Viens et manifeste-toi par ton esprit. Révèle-leur, Seigneur, l'Évangile. Montre-leur l'état de leur âme. Montre-leur qu'il n'y a aucun autre espoir que dans la croix de Jésus-Christ. J'attends de ton esprit, Seigneur, que tu réveilles celui qui a éteint l'esprit. J'attends de ton esprit, Seigneur Jésus, que tu animes celui qui a attristé ton esprit et qui ne l'entend plus. J'attends de toi, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'une repentance profonde qui nous conduit au pied de la croix, qui nous amène à abandonner nos fardeaux, nos culpabilités, nos idoles, nos vices, nos passions qui prennent ta place dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu sois notre première passion, Seigneur. J'attends de ton esprit que tu fasses de nous des bâtisseurs, comme Néhémie. Non, des critiques et des destructeurs comme Tobija, Seigneur. Fais de nous des bâtisseurs. Donne-nous la foi. Redonne-nous la foi, Seigneur. Et que ton évangile brille dans mon cœur, Seigneur, dans mon foyer et partout autour de moi, afin que des âmes puissent saisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous demander de vous lever. On va lire la parole de Dieu. On ne fait jamais ça ici. On va le faire comme ça ce matin. C'est un moment tellement solennel dans l'histoire de Néhémie. Alors, je vous demande de vous lever et de tourner avec moi dans Néhémie 2. Moi, je ne vous demanderai pas de lire en même temps que moi. Je ne suis pas rendu là encore. Ça évoque toutes sortes de choses dans mon esprit. Mais je vais vous le lire, d'accord? Et je vous demande votre attention parce que c'est la parole de Dieu que je vais lire. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça mérite votre attention. Fermez vos BlackBerry, lancez vos iPhones par terre, sautez dessus. On écoute la parole de Dieu. Néhémie 2, 1. Et je vais vous lire jusqu'à la fin du chapitre 3. Je m'excuse, Néhémie 2, 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez! » Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent alors, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballa, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïdes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pachéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Mitzpah appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils d'Arumaph, et à côté de lui travailla Atush, fils de Hachabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pacha, Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles, Shalum, fils d'Alochesh, fils de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, fils du district, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, un autre Néhémie, fils d'Asbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district, Hachabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille, vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Éliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Éliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Éliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de la maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Hénadad, répara une autre portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paréoc. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad, jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. C'est le peuple de Dieu qui est en train de construire des murailles. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'avais pas pratiqué chez nous, j'ai eu de la misère avec quelques noms. Pratiquez ça cette semaine, la semaine prochaine. À l'aveugle, je vous demande de venir lire en avant. C'est bon? La semaine dernière, on a vu que Néhémie était prêt à tout risquer pour pouvoir reconstruire. Dieu avait placé une vision devant ses yeux, une vision sur son cœur, une vision des murailles. Néhémie a prié, il a veillé, il a planifié, mais il est venu un moment où Néhémie devait être prêt à tout risquer pour reconstruire. Il était prêt à perdre son poste, peut-être à perdre la tête, littéralement. Il était prêt à risquer énormément au moment où il s'est adressé au roi. Et dans cette portion de l'histoire de Néhémie, bien, on voit Néhémie qui arrive à Jérusalem. Il a reçu l'autorisation du roi. Il se présente devant les gouverneurs qui sont dans le coin pour présenter ses lettres, s'assurer qu'il n'aura pas d'opposition. Il arrive à Jérusalem escorté par des forces armées. Alors, c'est impossible que Néhémie soit rentré avec discrétion dans la ville, d'accord? Il y avait des militaires qui l'accompagnaient, ce qui était très différent du retour d'Esdras à Jérusalem. Mais Néhémie arrive accueilli, et puis il va aller se reposer 3 jours, garde le silence, ne dit rien au chef de la ville. Tout le monde devait jaser de l'arrivée de Néhémie avec une force armée. Tout le monde en ville parlait de ça, dit pas un mot. Décide d'aller inspecter de nuit les murailles, prend conscience de l'état des lieux. On sait que Néhémie avait planifié, mais il va voir de ses propres yeux quel est l'état de la situation. Il le fait de nuit. Il le fait avec quelques proches, les seuls qui sont au courant de ses projets. Ensuite de ça, il va s'adresser au peuple pour les inviter à se lancer dans ce projet avec lui. Déjà, il va y avoir de l'opposition, des gens qui s'en prennent à leurs motifs, qui commencent à les mépriser et attaquer leurs motifs. Et Néhémie va s'opposer à eux. Il ne permettra pas que les opposants découragent le peuple. Fermement, il va s'adresser à eux. Et le projet décolle dans une extraordinaire collaboration. Et c'est ça que j'ai voulu illustrer ce matin, et c'est ce que Néhémie a voulu illustrer en nous donnant tous ces détails qui ont de l'air tellement inutiles. Mais voyez à quel point le peuple de Dieu a répondu. S'il y avait eu un miracle dans la bonne disposition du cœur du roi envers le projet de Néhémie, il y a un nouveau miracle dans la bonne disposition du cœur du peuple de Dieu pour que chacun mette de côté ses occupations et décide de reconstruire ses murs. Cette reconstruction a une histoire, ce n'est pas la première fois qu'on s'essaie. Et pour que le peuple ait suivi cette direction aussi rapidement, il y a une intervention de Dieu, c'est clair. Ce matin, je veux voir avec vous, très brièvement, je veux parler avec vous de l'inspiration que Néhémie a reçue. Néhémie a reçu un projet qui a été inspiré par Dieu. C'est comme ça que Néhémie le décrit. Il dit que c'est Dieu qui l'a placé sur son cœur. Maintenant, c'est particulier parce que Néhémie n'a pas eu de vision. Et je veux parler donc de cette inspiration qu'il a reçue pour que nous puissions apprendre ensemble à discerner ces projets que Dieu place sur notre cœur. Parce que Dieu place des projets sur nos cœurs de reconstruction. Est-ce qu'ils viennent de Dieu? Et deuxièmement, je veux voir ensemble comment par la suite Néhémie est devenu une source d'inspiration pour que le peuple réponde aussi promptement, aussi rapidement et aussi courageusement. Néhémie déclare que c'est Dieu qui lui avait mis à cœur ce projet. On voit ça au tout début de la section qu'on a lue au verset 12. « Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Néhémie a la conviction et il déclare que ce projet-là, ce n'est pas lui qui l'a conçu. Ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas un projet d'homme. C'est un projet divin. Maintenant, ce n'est pas seulement parce que c'est un bon projet que c'est nécessairement un projet de Dieu. On a dit plus tôt dans d'autres prédications que Néhémie va citer des paroles de Moïse pour se tenir à la brèche dans son intercession. D'une certaine manière, Néhémie voit son rôle même comme le rôle de Moïse, qui est là pour intercéder en faveur du peuple. Comment est-ce que Néhémie fait pour avoir la conviction que son projet vient de Dieu? Ailleurs dans les Écritures, pensez à Moïse. Je veux dire, Moïse a entrepris quelque chose d'incroyable. Comment Moïse a fait pour trouver le courage de faire ce qu'il avait à faire? Dieu lui est apparu. Un buisson ardent. Puis Moïse a discuté avec Dieu. « Ouais, mais Dieu, tu me connais. Attends, je vais te donner des signes. On va faire des miracles, c'est correct. T'es chicken, mon homme, je vais te réconforter. » Quand Moïse est allé se présenter devant Pharaon, je dis, il aurait pu dire, je suis trop chicken, Dieu. Mais je veux dire, à moins qu'il pense qu'il a souffert d'une psychose ou d'hallucination, Moïse ne pouvait pas nier le fait que le projet venait de Dieu. Il y avait une révélation. Dieu s'était manifesté à lui. Gédéon. C'est clair. Manifestation surnaturelle. Paul, Jésus lui apparaît. Ça vient de Dieu. Néhémie, aucune vision. Aucune vision. Alors parfois, je dis bien parfois, quand on survole l'ensemble des Écritures, le nombre de fois où Dieu parle par des visions, par des songes, par des anges qui apparaissent, en écrivant sur des murailles, quand vous survolez l'ensemble du récit des Écritures, en partant de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, parfois, Dieu donne un projet à un homme, à une femme, au peuple de Dieu, par une vision. Souvent, Dieu donne un projet en le plaçant sur notre cœur. Souvent. Et Néhémie pouvait avancer dans un projet qui était complètement flayé, où il aurait pu perdre son poste, il aurait peut-être pu perdre la tête, mourir, perdre la vie. Il aurait pu entraîner les gens dans un état plus malheureux encore, essayant de lever le peuple, soulevant l'opposition des adversaires qui sont autour, amenant une guerre sur eux. Mais Néhémie sait que son projet vient de Dieu. Comment est-ce que je fais pour savoir que ce qu'il y a sur mon cœur, le fardeau qui est là, me vient de Dieu? Simplement quelques principes, d'accord? Premièrement, Néhémie a eu ce fardeau sur son cœur. Si ça vient de Dieu, il va probablement y avoir de la tristesse sur ton cœur. Si Dieu te montre des ruines et il veut se servir de toi pour reconstruire, il va y avoir un fardeau qui va être là. Il est facile à expliquer. Si ça vient de Dieu, ce fardeau-là, c'est simplement la vision de Dieu. Dieu te donne, à partir d'un certain moment, de considérer une situation avec ses yeux à lui. Avant, tu n'avais pas de fardeau. Tu regardais la chose comme n'importe quel homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui ne voit pas les choses comme Dieu les voit. T'entends parler d'un divorce, t'entends parler d'une chicane, t'entends parler d'un conflit, d'un péché, n'importe quoi. Tu vois l'état d'un frère, d'une sœur qui va pas bien, puis ouf, c'est triste, mais tu sais, je pense que je vais aller au cinéma à soi. Je pense que je vais m'en ouvrir une bonne à soi. Je sais que je suis fatigué avec ça. Ouais, c'est triste. Ben, tu sais, personne de parfait. Même ça me conforte un petit peu, tu sais. Il n'est pas mieux que moi. On est tous pareils, hein? Mais non, quand ça vient de Dieu, Dieu place un fardeau sur ton cœur et c'est simple, il te donne ses yeux. Il te donne ses yeux pour voir la situation. Alors, premièrement, sur son cœur, Néhémie a eu un fardeau. Il a eu un fardeau, puis ensuite de ça, il est tombé à genoux, littéralement. Dieu lui a donné, j'oserais dire, un esprit de prière pour apporter ça à Dieu. Si ça vient de Dieu, tu ne vas pas entreprendre ça seul. Ce n'est pas un égo trip, cette affaire-là. Tu n'es pas le justifié qui s'en vient faire du ménage au milieu des ruines. Tu n'es pas le grand concierge de la place, là. Tu tombes à genoux parce que Dieu te donne un esprit de prière pour prier comme Néhémie. Parce que tu sais que cette entreprise-là vient de Dieu. Alors si Dieu t'a donné un fardeau, commence à aller dans la prière et tu vas savoir progressivement si ça vient de Dieu. parce que tu vas l'apporter devant lui. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. Néhémie a eu un fardeau sur son cœur, il est tombé à genoux, il a appliqué ses pensées à réfléchir, à voir où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Voyez-vous, c'est différent les rêveurs des bâtisseurs. Les rêveurs peuvent avoir des grands fardeaux, hein? Les rêveurs voient des situations, puis c'est lourd, puis on rêve de ce qu'on pourrait faire de mieux, mais sans jamais passer à la prière et sans jamais planifier la reconstruction. C'est charnel. Le rêveur est charnel. Le bâtisseur a une vision. Il y a un fardeau, il y a un rêve qui commence à naître, mais ce rêve-là se traduit en prière et en planification. On l'a vu, Néhémie, pendant tout ce temps-là où il priait, il réfléchissait, il analysait. Et lorsqu'il va arriver à Jérusalem, il va aller vérifier si ses projections pour la reconstruction sont justes, s'il a bien mesuré la situation. Un fardeau sur le cœur. La prière, la planification. Je commence à réfléchir comment ces choses-là vont se passer, comment est-ce qu'on va avancer. Quatrièmement, Néhémie est prêt à plonger. Encore une différence entre le rêveur et le bâtisseur. Le rêveur ne prendra jamais de risque, les amis, je vous le garantis. Ça va rester un beau rêve. Ah, si l'Église. Ah, si Yannick avait fait ceci. Ah, si on s'est élevé. Ça, c'est un rêveur. Si ça ne se traduit pas en prise de risque, c'est charnel. Ça vient de la chair. Mais Néhémie était prêt à tout risquer. Et parce qu'il était prêt à tout risquer, on peut discerner que ça venait de Dieu. Parce qu'il était prêt à tout risquer pour reconstruire, on peut discerner que ça venait de Dieu. Et au moment où il risque, Dieu ouvre les portes. Et c'est le cinquième élément. Ce qui me dit que ce projet-là venait de Dieu, que ce n'était pas un homme, un projet qui venait seulement des hommes, c'est que Dieu surnaturellement, le Dieu souverain, que je prie pour ce projet qu'il a placé sur mon cœur, je crois que c'est là sur mon cœur, va ouvrir les portes, c'est Dieu. Il peut disposer les inconvertis afin qu'ils soient favorables à ton projet. Il peut disposer ceux qui sont opposants à ton projet à ce qu'ils se taisent, à ce qu'ils soient chassés pour justement que le projet puisse s'accomplir. Dieu va ouvrir les portes. Dieu a disposé le cœur du roi. Conclusion de Néhémie, Dieu est avec moi. Amen. Dieu a disposé le cœur d'un roi païen. Conclusion de Néhémie, waouh, c'est tout un roi ce bonhomme-là. Bon cœur. Non, c'est un païen qui adore des idoles. OK, t'sais, sensible, peut-être qu'il aime bien son échanson, je ne sais pas. Il y avait certainement un intérêt politique dans ça aussi de sa part. Conclusion, Némi, Dieu est avec ce projet. Et là, il y a une conviction qui s'installe dans ton cœur. Il y a une conviction qui devient de plus en plus profonde. Ça devient fort en toi. Tu dis, Dieu, c'était ton projet pour que tu le mettes sur mon cœur, que je l'apporte dans la prière, que je conçoive des plans et que tu ouvres les portes, Seigneur. C'est ton projet à toi. Ce n'est plus mon projet à moi, Seigneur. Ça, c'est l'inspiration que Néhémie a reçue de Dieu. Et avec la même force que Moïse pouvait avoir, même force de conviction que Moïse pouvait avoir, Néhémie est capable de dire, sans vision, sans apparition, sans ange, c'est Dieu qui l'a placé sur mon cœur. C'est un projet divin. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu aujourd'hui ne parle plus par des songes. Au contraire, ce n'est pas ça que je crois du tout. Mais voici comment vous pouvez discerner et voir que ce qu'il y a sur votre cœur n'est pas charnel. Vous allez pouvoir affirmer progressivement à travers la prière et Dieu qui ouvre les portes, c'est de Dieu ce projet-là. Et après, lorsque je vais parler de mon projet, ce n'est pas à la légère que je vais dire « Dieu m'a dit que ». Oh, si tu savais tout ce qu'il y a derrière « Dieu m'a dit que ». Il y a une conviction qui est solide et qui est ferme. Néhémie arrive dans le projet, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait, il y a juste les autorisations. La bataille va commencer et Néhémie sait déjà, avant que le projet soit sérieusement entrepris, que ce projet-là vient de Dieu. Écoutez, si vous pouvez avoir ça, c'est énorme. C'est énorme. Quand les doutes viennent, vous savez que c'est un projet de Dieu. C'est énorme. À partir de cela, Néhémie va pouvoir devenir une inspiration, une source d'inspiration pour le peuple de Dieu. Mais jusqu'à ce point-ci, il y a un seul homme qui sait que c'est un projet de Dieu, c'est Néhémie. parce que son Dieu l'avait mis sur son cœur. Quand Dieu t'a donné des yeux pour voir une situation, Dieu t'a donné aussi un sens critique pour voir les choses comme elles sont. Apprenons quelques principes de Néhémie. Comment est-ce que Néhémie devient une source d'inspiration pour le peuple, pour que le peuple réponde aussi rapidement que ça? Premièrement, la prudence. Regardez bien comment Néhémie travaille. Il attend avant d'annoncer son projet. Il a attendu 4 mois. Et même lorsqu'il arrive sur place, il me semble que Néhémie, ça devait brûler, là. Écoutez, j'ai des lettres du roi, on a les matériaux, commande, j'arrive avec la force armée. J'arrive avec des militaires. Tassez-vous, je m'en viens au nom du roi. On va rebâtir ici. Prudence. Sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des opposants au projet. Il y a des gens qui sont là et qui vont juste chercher comment détruire ce projet-là. Tu le sais qu'il vient de Dieu, mais il y a des gens qui vont chercher à plomber ton projet. Alors, il est prudent. Il est prudent aussi parce que ces gens-là l'ont déjà vécu, la tentative de reconstruction. Vous savez, peut-être que Dieu place quelque chose sur votre cœur, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre couple, pour des amis, pour un ministère dans l'Église. Néhémie savait que ce peuple-là était dans un contexte où il avait appris à vivre avec les murailles détruites. Il y a des gens autour de vous qui ont appris à vivre au milieu des ruines. Ils vivent là-dedans. Et vous devez être prudent lorsque vous arrivez avec une vision fraîche. Vous savez comment est-ce qu'on est, hein? Lorsqu'on vient de se convertir, certains d'entre nous, je l'ai faite, là, tu sais. Tu prends la Bible puis tu t'en viens. Moi, je vais te donner une vision de Jésus-Christ. On va voir tous tes amis qui ne sont pas chrétiens. Tiens, tu vas connaître le Seigneur! Ah, mais toi, tu as une vision, les autres n'ont pas, John. Come on! Ta femme a prié pour toi, ta mère a prié pour toi, c'est-à-dire depuis 15 ans. Néhémie savait que les gens de Jérusalem avaient appris à vivre avec les ruines. Malheureux, mais ils vivaient là. Et il y avait des opposants. Alors, il a été prudent. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, puis il met son projet sur la table. Mais là, il y a des gens qui commencent à poser des questions. « Ouais, mais as-tu vu l'état de telle porte? » Non, j'avais pensé à ça là-bas à Suse, mais c'est vrai que j'ai pas vu ça encore. Non, mais as-tu vu la muraille? Est-ce que t'as vu l'état des lieux? As-tu même fait le tour de la ville? Il y a des questions qui vont venir, là. Les gens vivent là depuis longtemps. Néhémie est sage, il est prudent, il va examiner les lieux en secret, prépare ses réponses. Il y a toute une planification. Il va avoir des réponses lorsque les gens vont susciter des questionnements et de l'opposition. Néhémie est prudent. Il sait qu'il y a des adversaires, il sait que les gens vont être sceptiques. Il commence par examiner les lieux, prendre les informations, prendre le temps d'analyser. Aujourd'hui, on dirait, il prend le temps de connaître son dossier. C'est bon? Prends le temps de connaître ton dossier avant d'aller dire à quelqu'un, « Dieu m'a mis à cœur quelque chose, il faut qu'on reconstruise, Esther. On part sur le champ missionnaire l'année prochaine. On s'en va en Afrique, toi puis moi. » Prends le temps de connaître ton dossier, Yannick. OK? Pris là-dessus une couple de mois. Tu sais, Esther va avoir beaucoup de crainte, Yannick. Beaucoup, beaucoup. Pris là-dessus. Faites-vous-en pas, j'ai pas ça sur mon cœur. Néhémie est une inspiration parce qu'il va s'identifier au problème. Ça, c'est un élément majeur. Regardez avec moi le verset 17. C'est extrêmement important ce que je vous dis là. C'est vraiment important. Néhémie dit au verset 17, « Voyez le malheureux état où nous sommes. » Ah, mais Néhémie vient de Suse. C'est plus un gars de la place. C'est plus un gars du village. Puis il arrive là. Et eux ont appris à vivre avec ça. Néhémie a un sens critique pour voir l'état des lieux. Il voit à quel point, écoutez les boys, c'est minable où vous vivez. Ça n'a pas de bon sens. Vous tolérez des ruines. C'est le nom de l'Éternel. Le témoignage est en ruine. Il voit tout ça. Mais voyez-vous, Néhémie n'est pas allé observer les ruines pour critiquer ceux qui vivent au milieu des ruines. Ça, c'est vraiment important. Certains d'entre vous, vous pensez que vous avez un don divin. Parce que vous voyez les ruines. Dans l'Église, vous voyez les choses qui vont pas. Moi, j'ai un don de discernement. Non, t'es un chialeux. T'es un chialeux. T'as pas un don de discernement. T'es un chialeux. Essaye de traduire ça, Jenny, chialeux. T'es un chialeux. En espagnol, comment on dit ça? T'es un chialeux. Parce que Néhémie a vu les ruines. Voyez-vous, il est lucide. Il a de la lucidité. Si tu as un don de discernement, Dieu va te donner des yeux mais un cœur de bâtisseur aussi, pour venir t'identifier. Venir t'identifier avec les ruines. Ce ne sont pas les ruines des habitants de Jérusalem. Ce sont ses ruines à lui. Néhémie n'est pas allé explorer les murailles pour venir critiquer, décourager. On n'a pas besoin de ça, vous savez. Il y en a toujours de toute façon. Continuez à prier si c'est ça que vous vous préparez à faire. Néhémie n'a pas fait ça. Il est allé les voir puis il a dit, « Vos ruines, ce sont mes ruines. Regardez l'état malheureux dans lequel on est. Voulez-vous ensemble, on va construire? » C'est encore une fois un aspect de l'intercesseur qui vient s'identifier avec la situation. Alors, si Dieu t'a donné une lucidité pour voir des ruines, prie jusqu'à ce qu'il te donne le cœur pour t'identifier avec cette situation. En sorte à ce que lorsque tu vas ouvrir la bouche, tu ne vas pas venir dire aux gens, « Mais comment vous faites pour vivre de même? Comment vous faites pour tolérer ces péchés-là dans vos vies? Puis cette espèce de vie chrétienne qui est toujours sans joie, triste et moribonde? Comment tu fais pour être comme ça? » Donc, continue à prier. Si c'est juste ça qu'il y a sur ta bouche, continue à prier de grâce. L'insensé se tait et il passe pour sage. D'accord? De grâce. Tais-toi. Continue à prier. La sagesse va venir quand tu vas t'identifier comme Néhémie. Là, tu commences à être édifiant. Et Néhémie vient s'identifier avec ces gens-là. Ce sont ses ruines à lui. Enfin, il leur montre au verset 18 que ce projet-là n'est pas son projet à lui. C'est vraiment important. Si Dieu vous demande d'aller vous impliquer avec des gens pour construire, regardez ce que Néhémie fait au verset 18. « Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Néhémie doit convaincre des gens d'embarquer avec lui dans un projet. Il a prié, il a intercédé, il a planifié jusqu'à ce qu'il voie la main souveraine de Dieu sur son projet. Il ne s'en vient pas leur dire, « Regardez, je suis un gars compétent, on peut y arriver, vous êtes capable. » Ces gens-là ont besoin de croire que Dieu est derrière le projet. Ils ont besoin de voir la main de Dieu derrière le projet. C'est une leçon pour tous les leaders. C'est une leçon pour moi comme pasteur. Des fois, comme ouvrier, on veut comme conduire le peuple de Dieu dans une direction. Mais l'Église a besoin de savoir que Dieu bénit cette direction-là, qu'elle vient de Dieu. Et trop rapidement, trop vite, on dit, « Come on, on s'en va par là, j'ai un fardeau sur mon cœur. » Yannick, va prier avec Néhémie un petit peu, s'il te plaît. Là. Et toi, t'es excité un matin. Wouh! Va prier, Yannick, come on. Et peut-être que Dieu vous demande de diriger, d'être un leader dans une situation. Est-ce que vous êtes capable de raconter comment Dieu a ouvert les portes? Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir les Écritures pour exposer les promesses de Dieu par rapport à ce projet? Comme on l'a vu dans la prière, pour montrer le cœur de Dieu sur ce projet. Êtes-vous capable de faire la démonstration que votre Dieu est avec vous dans ce projet-là? Néhémie les a inspirés en s'identifiant, mais en leur montrant que Dieu est derrière le projet. Néhémie les a inspirés en se levant immédiatement pour défendre le projet contre les opposants. Ce n'est pas parce qu'il y a des chialeux, il y a des critiqueux, il y a des moqueurs, des gens qui s'attaquent tout de suite à tes motifs. Remarquez comment ils attaquent. Hein? Ils se moquent d'eux, ils sont méprisants. Puis deuxièmement, ils attaquent leurs motifs. Vous voulez vous révolter, c'est ça? C'est les motifs qui vont attaquer. Il va toujours y en avoir. Il va toujours avoir de ces gens-là. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que Dieu fasse des belles choses dans l'Église. Il ne veut pas ça. Il va avoir des critiqueux, des chaleurs. Peut-être qu'un jour, ça va être des constructeurs avec nous. Peut-être que Dieu va leur accorder la repentance. En attendant, si c'est à toi que Dieu a donné la vision, c'est ta job de te lever. C'est ton mandat de te lever et de les faire taire. Dieu t'a donné une vision. Lève-toi et fais taire les opposants avant que le peuple de Dieu soit découragé par le projet. Confronte-les avec Dieu et sa parole et mets-les au défi de marcher avec Dieu. Parce que leur opposition n'est pas de Dieu. C'est facile à voir ici. Ces hommes-là ne voulaient pas que le témoignage de Dieu soit rebâti. Tu as sondé tes motifs, tu as examiné tes projets à la lumière de la parole de Dieu, tu as nourri ça avec des promesses de Dieu, tu as vu que Dieu ouvrait les portes. N'hésite pas. N'hésite pas. Une erreur que Néhémie aurait pu faire ici, je méditais là-dessus. Néhémie aurait pu faire l'erreur de bien des gens qui refusent d'être des leaders dans des situations comme ça et juste dire, j'ai exposé tout ça au peuple, le peuple a décidé de se lever, il commence à y avoir des opposants, je vais voir s'il embarque avec moi. Allez-y les boys. Parce que là, vous m'avez dit que vous êtes avec moi. Moi, je n'avancerai pas si vous n'êtes pas avec moi. Je suis désolé, les amis. C'est à Néhémie que Dieu a donné la vision. Si Dieu t'a donné une vision, défends-la. Puis lorsqu'il va y avoir de l'opposition, défends-la. Ne permets pas que le diable vienne décourager les gens que tu veux conduire dans ce projet-là. Tu as sondé tes motifs, tu l'as fait dans la prière, Dieu a ouvert les portes. Fais face à l'opposition. Lève-toi, fais les terres, confronte-les avec la parole de Dieu. Puis avance. Dernier élément que je veux soulever ici, parce que ce qu'on voit après dans toute la suite, la description qui nous est faite ici, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ qu'on voit ici. On est dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu, je le sais. Mais voyez-vous, ça c'est l'Église de Christ telle qu'on doit la voir actuellement. Tournez avec moi dans un passage, et je vais terminer avec ce passage, dans 1 Pierre 2. Un Pierre 2, versets 3 à 12. Je lis vraiment des longues sections ce matin. Mais c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 3 à 12. Selon l'édition de votre Bible, ça peut être le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, une pierre, une occasion de chute, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La description qui nous est faite dans Néhémie, c'est la description du peuple de Dieu qui répond à l'appel de Dieu pour reconstruire la muraille. Et essayez d'imaginer la scène, essayez de la voir avec moi. Les gens sont partout autour de la ville, chacun prenant la portion qui lui revient, la portion qui est devant sa maison. Et ils commencent à reconstruire. Certains en font un projet de famille. C'est volontairement que Néhémie nous dit qu'il y a des filles qui ont participé à la reconstruction du mur. Certains en font un projet de famille. Et on a cette vision du peuple de Dieu qui est en train de reconstruire chacun sa portion de mur. Frères et sœurs, si vous avez connu comme moi Jésus-Christ est en train de reconstruire. Il est en train de bâtir une maison spirituelle ici à l'Église de l'Espoir. Ça, c'est la portion à nous qui nous incombe. Et chacun dans notre vie, nous avons une portion de mur à reconstruire, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans notre couple, que ce soit le témoignage au travail. Mais chacun d'entre nous, nous devons nous lever et prendre la part de reconstruction qui nous incombe. Des gens vont nous regarder. Ils vont dire, toi, t'es un arriéré mental parce que tu crois dans ce Jésus-là qui est poussiéré, qui est vieux. Tu crois dans ces vieilles histoires-là. Tu viens d'une autre époque. Tu crois des fables et des contes. Mais la parole de Dieu nous dit ici que lorsque les gens vont nous voir à l'œuvre, certains d'entre eux vont reconnaître la main de Dieu. Ils vont reconnaître qu'il s'agit là d'une œuvre de Dieu. Parce que les gens vont apprendre à connaître un autre personne de l'Église à travers ce qu'on est en train de faire, à travers nos relations, nos amitiés, on va les inviter. Et ce qu'ils vont découvrir, ce sont des gens qui vivent au milieu des ruines. Parce que lorsque Christ est venu nous chercher, nous étions en ruine. Ce qu'ils vont découvrir, c'est des foyers qui luttent, des couples qui s'aiment et qui s'aiment mal et qui essaient de reconstruire, des vies qui étaient laissées aller, des gens qui luttent avec des péchés bien réels, des gens qui sont encore dans des combats. Mais ils vont découvrir des gens qui ont vu ces ruines et qui ont commencé à construire. Et ces gens-là vont découvrir le peuple de Dieu. Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu es assis dans ta maison en train de regarder les ruines ou est-ce que tu es sorti, tu t'es levé et tu as commencé à reconstruire les ruines qui sont devant chez toi? La part qui t'incombe de reconstruction. Est-ce que tu as pris ta place dans cette bâtisse que Christ est en train de construire ici à l'Église de l'Espoir? Parce que Dieu veut se glorifier. Il veut révéler au monde, aux gens autour de nous, des gens qui reconstruisent sur des ruines par la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu m'as montré depuis longtemps les ruines dans ma vie, dans mon cœur et autour de moi et tout ce qu'il y a à travailler dans ma relation avec Esther et dans mon témoignage avec les enfants, dans mon témoignage avec ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et tant d'autres choses que des frères connaissent et prie pour moi, Seigneur, parce que tu me les as montrées. Et personnellement, Seigneur, tu m'as donné cet esprit de prière maintenant pour lutter sans cesse dans la prière et chercher ta grâce et me nourrir des promesses de ta parole. Seigneur, tu me l'as accordé. Tu l'as accordé à plusieurs dans cette assemblée. Et Seigneur, Tu inspires des gens autour de moi et autour d'autres, Seigneur. J'entends ces témoignages et ces gens à qui tu as donné cette vision et cet esprit de prière et ce courage pour tout risquer et ce désir de reconstruire sont des sources d'inspiration, Seigneur, pour moi et pour plusieurs dans l'Église. Je te bénis pour l'œuvre que tu as commencée au milieu de nous, Seigneur. Commencée au milieu de nous, Seigneur. J'aimerais te prier, Père, pour ceux et celles au milieu de nous qui se sont accommodés de ces ruines, qui sont tristes et insatisfaits, mais en même temps, qui ont le cœur trop lâche, trop fatigué pour se relever et commencer à reconstruire. Ceux qui alimentent davantage leur vision de rêve que d'action. Je prie, Seigneur, pour les rêveurs. Transforme ces rêves en vision, Seigneur. Transforme ces rêves en vision, Seigneur. Et qu'ils se lèvent et qu'ils passent à l'action. Viens, Seigneur, nous visiter par ton esprit. Viens, Seigneur, éveiller une œuvre en nous si là où nous t'avons attristé, là où nous avons éteint l'esprit, viens, Seigneur, visite-nous à nouveau, Seigneur. Et que ton esprit recommence à faire battre ce cœur en nous. Animer notre foi, Seigneur. Ma prière, Père, c'est que toute cette Église soit debout en train de reconstruire. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever, on va chanter ensemble.